Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack.
Troisième partie de Soundtrack et ici Owner of Lonely Hearts 1983. Yes, bien entendu, ce morceau qui avait été numéro 1 aux États-Unis, c'est même le plus grand hit de la carrière de Yes. Et si on ouvre ici cette séquence Soundtrack ce matin consacrée à John Anderson avec ce titre-là, je rappelle au passage que John Anderson est aussi le sujet de la série Rock Icons de cette semaine, dont on a écouté le teaser tout à l'heure. Mais bon, si on ouvre avec ce titre-là, c'est évidemment pour mieux mesurer l'écart entre ce son pop funky qui avait été taillé pour la radio et puis le reste de l'œuvre de ce groupe. Et la séquence, on la partage avec Laurent Riepi. Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent, oui, parce que si pour le grand public, Yes, c'est Owner of a Lonely Heart, eh bien ce n'est pas que ça. Et c'est loin de là même, c'est un groupe dont l'ambition était d'une toute autre nature, du moins dès le départ. Des titres parfois qu'ils ont composés qui duraient plus de 20 minutes, des textes mystiques, une complexité harmonique absolument fascinante. Et au centre de tout ce groupe, pendant 40 ans, cette voix haute, lumineuse, la voix de John Anderson.
Et cette voix, elle vient d'où ?
Eh bien, elle vient d'Accrington, dans le Lancashire. John Roy Anderson, qui naît le 25 octobre 1944, dans une petite ville ouvrière du nord de l'Angleterre. Alors, ses parents ne sont pas des musiciens, mais ça ne les empêche pas d'avoir le sens du spectacle. Son père, d'origine écossaise, est comédien dans les galas de l'armée. Et le duo, donc avec sa maman, ils étaient champions ensemble de danse de salon de Lancashire. Donc voilà, c'est des personnes qui aimaient bien s'exposer et proposer en tout cas leur talent en public. Mais la réalité économique pour le petit John Anderson, c'est un univers assez compliqué, c'est dur. Le père va tomber malade, John va quitter l'école à 15 ans, il va travailler dans différents domaines, il va notamment travailler à la ferme, il va livrer des briques, il va faire des tournées de livraison de lait. Donc voilà, c'est un petit peu la grande débrouille.
Ben voilà, oui.
Il n'y a pas véritablement de perspective artistique possible pour lui à cette époque. Voilà, on a l'impression que son avenir est un petit peu bouché. Et pourtant, ce qui le fait rêver à ce moment-là, c'est la musique. C'est ça qui lui donne envie de continuer. La musique d'Elvis Presley, évidemment, des Everly Brothers, des Beatles, de Sinatra ou encore d'Otis Redding.
Et c'est son frère, visiblement, Tony, qui va lui permettre d'entrer dans le milieu de la musique rock.
Effectivement, Tony, qui lui chante dans un groupe local qui porte le nom de The Warriors. Un jour, l'un des choristes de ce groupe va quitter la formation pour devenir coiffeur.
Oui,
bien sûr. Et John va prendre sa place. Il a 18 ans. The Warriors joue chaque soir ou presque dans les clubs ouvriers du Lancashire. Et pendant 5 ans, John Anderson va faire ses armes en interprétant des covers et ce principalement des reprises des titres des Beatles. Donc c'est assez étonnant. C'est une bonne école, on peut le dire.
Fait, oui.
Et puis en 67, John va jeter l'éponge. Il va arrêter ce groupe de covers, débarquer à Londres. Mais là, malheureusement, sans un sou en poche. Et c'est là, dans un tout petit bar de Soho, qui s'appelle La Chasse, ou La Chaise, je ne sais pas comment on dit en anglais.
Chasse, ouais.
La Chasse, oui. Qui est situé juste à côté, en fait, du fameux Marquis Club, qu'on connaît bien.
Ouais.
Eh bien, c'est là-bas que John Anderson va faire la rencontre clé d'un musicien qui va totalement changer le cours de sa vie et de sa carrière professionnelle. C'est cette rencontre d'un très grand bassiste, autant par sa taille que par son talent, parce que c'était un véritable géant, c'est Chris Squire. Donc Chris Squire et John Anderson discutent, se rendent compte qu'ils ont exactement les mêmes goûts en musique, ils adorent les mêmes choses, ils adorent notamment Simon & Garfunkel, et ils adorent, et ça c'est important pour la suite de l'aventure, c'est le travail sur les harmonies vocales. Et c'est vrai que ça va être une des signatures de Yes, et ce soir-là, John va chez Chris, ils vont parler musique, le lendemain matin, déjà, après avoir passé une nuit à discuter musique, ils ont déjà écrit leur premier morceau ensemble qui s'appelle Sweetness et qui figurera d'ailleurs sur le premier album de Yes.
Ouais, l'alchimie ne s'invente pas. Yes qui se forme donc en 1968. Alors les deux premiers albums sont bons, mais le groupe apparemment se cherche encore à ce moment-là. Et puis en 1971, avec l'arrivée du guitariste Steve Howe et l'enregistrement du Yes Album, là, évidemment, tout va changer.
Et oui, le Yes Album, c'est la révélation. C'est toujours aujourd'hui d'ailleurs un album considéré comme l'un des grands piliers de l'histoire du rock progressif britannique. On y retrouve des structures particulièrement élaborées, des guitares acoustiques et électriques qui se mélangent, des harmonies vocales parfaites et des classiques comme Yours Is No Disgrace, Starship Trooper ou encore I've Seen All Good People que nous allons écouter. Mm-hmm. Cet album entre dans le top 10 britannique et pour la première fois, Yes, on va dire, quitte le rôle de groupe prometteur et entre véritablement dans le statut de groupe plus que prometteur et qui surtout s'apprête à conquérir le monde entier.
Et comme promis, comme vous venez de l'annoncer, on écoute ce I've Seen All Good People.
I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way.
I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way.
I've seen all good people à l'instant ce matin, donc dans Soundtrack et dans une spéciale ici qui est donc consacrée à John Anderson. Alors juste après le Yes album, Yes enchaîne avec Fragile, ça c'est la fin 1971, ça marque aussi l'arrivée de Rick Wakeman au clavier et puis de l'artiste Roger Dean qui invente visuellement les pochettes du groupe, hein, et notamment Roundabout, Heart of the Sunrise, et il se classe dans le top 5 américain. Et puis alors arrive ici en 1971, on va dire que c'est le sommet absolu, hein, c'est Close to the Edge.
Ah oui, Close to the Edge, c'est un véritable choc, hein. C'est un album qui va marquer les esprits à sa sortie. Alors, il ne contient que 3 morceaux. Ça, c'est quand même voilà, une structure assez... Bon.
Mais c'est des longs morceaux.
C'est le rock progressif. Le premier, donc, qui donne son titre à l'album, qui a une durée de 18 minutes. Un morceau à l'architecture sonore d'une complexité renversante. Hein. On retrouve John Anderson et Steve-O en tant que moteur de tout cela. On dit que dans les studios, eh bien, seuls ces deux artistes savaient vraiment où le morceau allait, tant il semblait complexe, voire parfois un petit peu décousu. Du moins, en tout cas, à la première écoute, un morceau qu'on vous invite vraiment écouter chez vous, hein, qui est une véritable merveille de l'histoire du rock progressif. Il y a aussi sur cet album le morceau Siberian 4 roues, qui est un monstre d'énergie avec cette intro de guitare immédiatement reconnaissable. Et on pourrait se poser la question, mais ça veut dire quoi?
Siberian 4 roues, ça veut dire quoi?
C'est vrai que parfois c'est assez cryptique comme ça, hein, le nom des morceaux de Yes. Eh bien, John Anderson a donné différentes réponses au fil des années par rapport à la signification de ce Siberian 4 roues. Eh bien, la plus connue, c'est que 4 roues en sibérien voudrait dire comme tu veux.
D'accord. Okay.
Donc personne n'a jamais vraiment su si c'était vrai, mais avec John Anderson, eh bien, les mots sont souvent plus utilisés comme des sons que comme étant des porteurs de sens. Donc en fait, lui, ce qu'il aime, c'est la sonorité des mots, comment ce que ça donne et comment finalement ces mots deviennent des accompagnateurs, des instruments qu'on retrouve sur l'album.
C'est un peu le principe de la poésie, hein. Absolument. Certains autres compositeurs ont fait de même. On écoute Siberian 4 roues. C'est Brian Catrew, donc à l'instant, Yes, bien entendu, et cet album Close to the Edge qui marque aussi la fin d'une ère finalement pour Yes. Bill Bruford, le batteur fondateur, quitte le groupe pour King Crimson juste après cet album. Alan White le remplacera et puis alors restera jusqu'à sa mort en 2022. Suit par après donc une décennie très productive avec des albums comme Tales from Topographic Oceans, Relayer ou encore Going for the One, donc avant que John Anderson Jackson ne quitte lui aussi le groupe à la fin des années 70, épuisé aussi par les tensions internes.
Oui, c'est vrai qu'il faut dire que Yes est un groupe qui était fondé autour de personnalités très différentes, venues d'horizons différents. Ça donnait la richesse du groupe, mais ça rendait parfois la situation particulièrement tendue à des gens qui ne s'entendaient pas toujours. Moi, j'ai eu la chance d'en croiser certains backstage lors de concerts de Yes, et c'est vrai que c'est vrai que ce sont des personnalités très très différentes l'une de l'autre, et on comprend pas toujours comment ils ont pu finalement tenir aussi longtemps, même s'il y a eu des ruptures, des réunions. Mais voilà, et si les albums s'appellent Close to the Edge et Fragile, c'est pas un hasard non plus, parce que il y a un équilibre fragile autour de ce groupe. Et donc après l'aventure Yes, eh bien c'est là qu'intervient un certain Vangelis Papathanoussi, le compositeur grec, hein, ancien membre d'Aphrodite Child. C'est lui qui va partager avec John Anderson cette même fascination pour la musique, comme s'il s'agissait d'une forme d'espace spirituel, et ensemble, sous le nom de John Evangelis. Donc Vangelis propose d'autres choses que sa carrière, on va dire, sous le nom de Vangelis. Eh bien ici, en duo, ils vont enregistrer à partir de 1980 une série d'albums tout à fait intéressants, comme Short Stories, The Friends of Mr. Kero, Private Connection, et ils vont même atteindre les charts britanniques avec le I Hear You Now. Donc c'est une collaboration assez libérée, personnelle, et finalement très éloignée des contraintes de l'univers de Yes, parce qu'en fait, les deux hommes s'entendent extrêmement bien, ce qui change du côté un petit peu, on va dire, chaotique au niveau de l'entente de Yes.
Mais ça permet de se recentrer, et puis alors John Anderson finalement revient en 1983 au sein de Yes, dans des circonstances qui étaient assez rocambolesques.
Ah, effectivement, puisque Chris Squire, qui est vraiment le maître des cérémonies de Yes, c'est celui qui sera vraiment le pilier du groupe, a alors monté un nouveau groupe, un nouveau projet qui s'appelle Cinema, avec le guitariste Trevor Rabin. Ils ont enregistré tout un album. Le problème, c'est que personne, absolument personne, ne veut d'un groupe inconnu appelé Cinema. Voilà, c'est pas...
Cinéma, hein.
Les maisons disques ne sont pas vraiment convaincues. Et donc Phil Carson, chez Atlantic Records, a l'idée de faire revenir John Anderson pour rebooster, enfin pour quelque part faire de ce projet Cinema une nouvelle mouture de Yes. Alors au départ, John Anderson va refuser tout d'abord, parce qu'il sait que les relations n'ont jamais été impeccables. Lui qui sent mieux ne plus être dans tout ce... C'est ce moment,
difficile,
il n'a pas envie de retourner là-dedans. Et finalement, il va changer d'avis. Et donc, ce nouveau Yes 2.0 voit le jour. L'album 90125 sort en novembre 1983. Et là, c'est le raz-de-marée. 7 à 8 millions d'exemplaires qui vont se vendre. C'est un carton absolu. La maison de disque aura vu juste, donc, de faire revenir John Anderson. Et évidemment, au cœur de tout ça, Honor of a Lonely Heart, que l'on a écouté au début de la séquence, se classe numéro 1 aux États-Unis. Ce sera d'ailleurs, et ça c'est assez intéressant, le seul numéro 1 américain de toute la carrière de Yes. Mm-hmm.
Alors ici, Yes, après, continue son chemin encore des années, avec pas mal de péripéties. Et puis John Anderson va claquer définitivement la porte en 2008.
Et oui, John Anderson, à ce moment-là, lorsque ils sont en train de travailler sur ce qui aurait pu être un des derniers projets de Yes et John Anderson, eh bien, il va souffrir d'une insuffisance respiratoire aiguë. Ce sont notamment les fumées à base d'huile des éclairages des concerts qui ont considérablement aggravé sa condition. Donc il doit se reposer. Les médecins lui prescrivent donc 6 mois de repos. Jusque-là, tout va bien. Et malheureusement, au lieu de l'attendre, Yes va partir en tournée sans lui et recruter un nouveau chanteur, un chanteur canadien qui s'appelle Benoît David, découvert par les membres de Yes sur YouTube, dans un tribute band à Yes. Donc John Anderson va apprendre la nouvelle par les journaux, donc il apprend grosso modo qu'il a été viré de son propre groupe. Il ne va pas trop apprécier, vous en doutez. C'est un peu compliqué, on peut le comprendre. Et ce sera donc la fin de l'aventure Yes pour lui. Aujourd'hui, Yes continue à exister, dirigé par le guitariste Steve-O, avec John Davison au chant, dont la voix ressemble très très fort à celle de John Anderson, de façon presque troublante, j'ai envie de dire. Chris Squire, donc le pilier, lui, est mort en 2015. Alan White, le batteur, en 2022. Donc il ne reste plus aucun membre fondateur original dans l'IS d'aujourd'hui.
Ce qui est assez dingue finalement. Mais bon, John Anderson, lui, est de retour avec un nouveau projet.
Effectivement, un groupe qui porte le nom de The Band of Geeks, hein, The Band Geeks, un groupe de musiciens américains devenus célèbres sur YouTube en recréant avec une précision absolument saisissante le son des groupes classiques hein, du rock comme Queen, Toto, Black Sabbath. Yes, c'est vrai que quand on les voit jouer, rejouer parfois des albums entiers de ces groupes-là, c'est tout à fait bluffant. Mm-hmm. Plus de 30 millions de vues pour ce groupe YouTube. Ouais, ils ont impressionné pas mal de gens. Et quand John Anderson les a entendus pour la première fois interpréter du Yes, il a été complètement épaté. Ensemble, ils se sont mis au travail. Ils ont enregistré un album qui s'appelle True et sont déjà partis donc en tournée aux États-Unis. Et cette année, John Anderson and the Band Geeks arrive en Grande-Bretagne pour la première fois. Et le 20 septembre 2026, au London Palladium, eh bien, John Anderson sera de retour sur la terre britannique, la terre de ses débuts, donc, à l'âge de 81 ans, et sa voix. Et ça, c'est complètement incroyable, n'a absolument pas changé depuis ses 20 ans. C'est, hein, 81 ans, c'est tout à fait,
c'est hallucinant,
inédit,
quoi.
C'est, hein. c'est génial, ouais. Mais c'est vrai que vous allez voir les vidéos, c'est complètement fou.
C'est extrêmement rare, et vous avez raison d'ailleurs de le souligner. Alors ici, on va terminer cette séquence avec une de ses plus belles pages en dehors de Yes. Donc c'est sa collaboration que vous avez évoquée ici avec Vangelis et qui a produit des moments absolument magnifiques. Et ici, c'est avec un titre en particulier, à savoir So Long Ago, So Clear.
Ouais, So Long Ago, So Clear, un titre qui, au fond, résume tout. Vangelis l'avait écrit pour son album solo qui s'appelle Heaven and Hell en 75 et c'est déjà à ce moment-là, John Anderson, qui est ami avec lui à cette époque, qui chantait en tant qu'invité. Donc c'est avant que ça devienne un duo.
Projet, ouais.
Alors que John Anderson, à ce moment-là, est encore membre de Yes, mais c'est vraiment un titre magnifique avec cette voix qui plane sur une musique évidemment cinématographique. Vangelis oblige, hein, on sait que c'est un grand compositeur de musique de film. Bref, ce morceau, c'est véritablement du grand art à savourer.
Et on va le savourer d'ici quelques secondes. Le temps déjà aussi de vous remercier, Laurent, et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'est du ravissement à l'état pur. Hein. Donc ce morceau So Long Ago So Clear avec la voix de John Anderson et bien entendu ici cet Evangelis en 1975. C'était l'album Heaven and Hell et comme je l'ai signalé en début de séquence, je vous rappelle aussi que John Anderson est au centre du Rock Icons de cette semaine, donc hein, à retrouver sur notre site classique21.be. Et puis Laurent a également publié un article sur en lien avec cette séquence, donc article que je viens également de poster il y a très peu de temps sur ma page Facebook.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.